VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Singapour se prépare à accueillir le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant coréen Kim Jong-un. Fronde sociale au Burkina Faso, les salaires de la fonction publique font débat. Incendie de la sous-préfecture de Kénéba au Mali. Dans la partie magazine, retour sur l'acquittement de Jean-Pierre Bemba et sur le rôle de la CPI. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les ultimes préparatifs à la veille de leur sommet historique. Le président américain se dit confiant et impatient. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je pense que cela va très bien se passer, a déclaré Donald Trump à l'occasion d'un déjeuner avec le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Heureux d'être à Singapour, excitation dans l'air, avait tweeté un peu plus tôt le locataire de la Maison Blanche. Il s'est entretenu par téléphone avec le président sud-coréen Moon Jae-in et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le tête-à-tête entre les deux hommes sera suivi d'une réunion avec leur équipe respective, puis d'un déjeuner de travail. La Maison Blanche a affirmé hier que les discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont progressé plus rapidement que prévu. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong-un à deux reprises, s'est dit très optimiste quant aux chances de réussite. Il a souligné que les États-Unis sont prêts à apporter à la Corée du Nord des garanties de sécurité en échange de sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. En 1994, puis en 2005, des accords ont été conclus mais n'ont jamais été appliqués. Depuis, Pyongyang a multiplié ses essais nucléaires et balistiques.
L'actualité sur le continent, au Burkina Faso, c'est la question des rémunérations des agents de la fonction publique qui fait débat. La fronde sociale se durcit davantage. À la veille de la conférence sur la rémunération des agents publics, le Premier ministre Paul Kabatieba rassure les syndicats qui ne veulent pas prendre part à venir sur la table de discussion. Le point avec le correspondant de VOA Africa, Ouagadougou, Lamine Traoré.
La conférence sur le système de rémunération des agents publics s'ouvre mardi à Ouagadougou, au même moment où le contexte social reste agité, caractérisé par des grèves et sittings. Pire, une trentaine de structures syndicales refusent de prendre part à la conférence. Le Premier ministre Paul Kabatieba, obligé de lancer un appel aux syndicats.
Je voudrais inviter l'ensemble des forces vives de ce pays à une participation active, à participer activement.
L'objectif recherché à cette conférence est de parvenir à une refondation du contrat social avec les travailleurs du secteur public, fondée sur les principes d'équité, de soutenabilité budgétaire et de la solidarité nationale, a annoncé Paul Kabatieba. Les mesures qui seront issues de cette conférence permettront d'assurer la pérennité du système de rémunération des agents de l'État au Burkina Faso, a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter, la conférence va permettre de trouver une solution définitive aux revendications sociales des travailleurs. C'est la première fois au Burkina Faso qu'une telle rencontre se penche sur la question des salaires des agents de l'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Burkina toujours, trois hauts magistrats burkinabés accusés de manquement à l'éthique et à la déontologie ont été révoqués ou mis à la retraite, alors que 15 autres magistrats ont été sanctionnés. Et ce, nous l'avons appris grâce à un communiqué publié aujourd'hui par le quotidien d'État Sidoya. Sur les 34 magistrats soupçonnés de violation des règles d'éthique et de déontologie, 15 ont été mis hors de cause. Au Mali, des jeunes de Kénéba ont saccagé et incendié la sous-préfecture, le domicile du préfet, du sous-préfet et d'un député. Aussi, les toutes nouvelles cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du mois prochain seraient ainsi parties en fumée. Comment en est-on arrivé là? Modibo Dembélé a joint Idrissa Kané, préfet de Kénéba.
Ce qui s'est passé ce matin est le couronnement d'un malheureux processus. Le 21 mai 2018, il y a certains travailleurs de la mine qui sont des jeunes de Kéniba, qui ont barricadé les portes d'accès de la mine, empêchant du coup les travailleurs de rentrer et les employés de la mine qui sont là-dedans de sortir. Donc, quand ils ont fait ça, le directeur de la mine m'a saisi, m'a dit de parler à ces gens-là pour qu'ils puissent libérer. J'ai envoyé mes deux adjoints, plus le maire, son adjoint, le président de l'Ecotrad, les responsables militaires, pour leur dire de lever les barrages, de venir, on va négocier. Ils ont dit non, ils ne négocient pas. Ils ont des doléances, mais leur doléance principale, c'est le licenciement de la directrice des ressources humaines de Gongoto. Gongoto, c'est le nom de la mine. Donc, la mine a suspendu ceux qui étaient dans cette situation. Donc, dès qu'ils ont été suspendus, ils sont venus me voir pour me demander d'écrire officiellement à la mine pour leur dire d'annuler la procédure qu'ils ont engagée contre eux. Sinon, ils vont faire la même chose que ce qui est arrivé à Jean Fouilla. Donc, c'est en application de cette décision à leur niveau qu'ils sont sortis en masse ce matin. Ils ont enroulé toutes sortes de personnes. Donc, ils ont marché sur le cercle, ils ont pillé le cercle, ils ont pillé ma résidence, ils ont pillé le véhicule de fonction, les véhicules privés. Ils ont tout pillé. On est à ce niveau aujourd'hui.
C'était Idrissa Kané, préfet de Kéniéba dans l'ouest du Mali. L'ONU a confirmé qu'un casque bleu burundais avait été tué hier dimanche à Bambari, dans le centre de la Centrafrique, lors d'affrontements entre des hommes armés et des forces onusiennes. Hier également, un convoi des forces armées centrafricaines en route vers Bangassou et accompagné de soldats de la MINUSCA a été attaqué à une quarantaine de kilomètres de Bambari. Par ailleurs, la Centrafrique a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de donner son feu vert à la livraison d'armes chinoises destinées à son armée et à sa police. La ministre de la Reconstruction des armées, Marie-Noël Koyara, a demandé une exemption à l'embargo sur les armes pour ces matériels, notamment des véhicules blindés, des mitrailleuses et des grenades lacrymogènes. À Madagascar, Christian Tsay, le nouveau Premier ministre de consensus, a formé son gouvernement. Le chef d'État a précisé que ce gouvernement était issu d'un dialogue politique et qu'il avait été mis en place en conformité avec la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Ce nouveau gouvernement devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise politique. Les habitants de la ville frontière de Badme, dans le nord de l'Éthiopie, ont manifesté contre la décision du Premier ministre éthiopien d'appliquer les accords d'Alger et de restituer Badme à l'Érythrée. Abiy Ahmed avait amorcé la semaine dernière un profond changement de politique en annonçant son intention d'appliquer cet accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. En Afrique du Sud, nouvel accident dans une galerie abandonnée d'une mine appartenant au groupe Sibanye Stillwater. Trois corps ont été retrouvés, mais le syndicat national des mineurs a affirmé que quatre mineurs sont morts dans cet accident. Le mois dernier, sept mineurs étaient morts dans l'effondrement d'une galerie. En Libye, les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar ont annoncé s'être emparées de plusieurs quartiers de Derna, cette ville côtière, place forte historique des islamistes radicaux en Libye et située à plus de 1000 km à l'est de Tripoli.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Espagne a finalement accepté d'accueillir 629 migrants bloqués au large de la Libye. L'Italie et Malte avaient refusé d'accueillir dans leur port l'embarcation. Le point avec Marie Benson.
L'Espagne a finalement accepté de recevoir ces migrants. Le navire doit maintenant parcourir une longue distance pour arriver à la côte espagnole. Les vivres commencent à se faire rares sur le bateau. Le gouvernement maltais a donc promis d'y acheminer de la nourriture. Depuis hier, 629 migrants à bord d'une embarcation étaient en rade en Méditerranée, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs non accompagnés. Ces migrants souhaitaient débarquer à Malte ou en Italie, mais les deux pays ont fermé leurs portes. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit qu'il ne voulait pas que son pays devienne un énorme camp de réfugiés. De son côté, le premier ministre maltais, Joseph Muscat, avait refusé d'ouvrir son port pour accueillir le navire, malgré les appels des Nations Unies.
Et toujours sur ce dossier, le président français Emmanuel Macron recevra vendredi prochain le nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte, afin de préparer le Conseil européen des 28 et 29 juin, en particulier sur la question des migrants. Russes, Allemands, Français et Ukrainiens sont réunis ce soir à Berlin pour tenter de ressusciter le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. Au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays ont discuté du très fragile cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk de février 2015, parrainé par Paris et Berlin. La création d'une éventuelle mission de maintien de la paix de l'ONU dans l'est de l'Ukraine a été abordée. Et puis le pape François a accepté la démission de trois évêques chiliens, dont celle du très controversé Juan Barros, à la suite d'un vaste scandale de pédophilie dans le clergé chilien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a vu un programme de développement de son réseau électrique et ambitionne d'atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6600 MW en 2030. Abidjan envisage aussi de faire participer les énergies renouvelables à hauteur de 11% d'ici à 2020 et 16% en 2030. La Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un réseau de 5000 km de lignes à haute tension et d'une pupuissance installée de 2200 MW. Chaque année, la demande brute nationale augmente de 5%. Le pays exporte aussi vers le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Bénin ou le Togo. Au Cameroun, des épaves de vieux bateaux entravent l'activité et la compétitivité du port de Douala depuis 33 ans. Ce sont au total 80 épaves de bateaux qui encombrent le port de Douala. Le retrait de ces bateaux abandonnés va coûter légèrement moins de 5 milliards de francs CFA. Cette semaine, on a commencé à les enlever. Dans un premier temps, 25 épaves présentées comme les plus dangereuses seront enlevées sur 8 mois. Plus de 95% du trafic portuaire du Cameroun passe par le port de Douala, le plus grand d'Afrique centrale. Le Nigeria veut ressusciter la filière cacao pour diversifier son économie. 90% des revenus d'exportation et 70% des recettes de l'État proviennent du pétrole.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Sénégal termine sa préparation du mondial par une victoire.
Et oui, après trois matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, et une défaite contre la Croatie 1-2, les Lions de la Teranga ont renoué avec le succès en s'imposant 2-0 face à la Corée du Sud en Autriche pour leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Dans une rencontre disputée à huis clos et sans caméra, peu d'informations filtrées. Les hommes d'Aliou Cissé ont ouvert le score sur un but contre son camp, consécutif à un centre de Pape Aliou Ndiaye, 54e minute, puis Moussa Konaté a fait le break sur pénalty en fin de partie à la 85e. Cette victoire face à un autre mondialiste, la première en 2018, va faire du bien aux Lions avant leur entrée en lice au Mondial le 19 juin contre la Pologne.
Mohamed Salah n'a pas participé au premier entraînement des Pharaons à Grozny en Russie.
Blessé à une épaule il y a 15 jours lors de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Mo Salah a assisté à cette séance d'entraînement sur la pelouse de l'Akmat Arena. Les choses évoluent dans le bon sens et mon moral est excellent, a confié l'attaquant vedette de Liverpool. Mohamed Abou Al-Efa, le médecin de la sélection égyptienne, a indiqué que Salah était toujours incertain pour le premier match contre l'Uruguay le 15 juin. Les Pharaons doivent également affronter dans le groupe A la Russie le 19 juin, puis l'Arabie Saoudite le 25 juin.
Marché des transferts, Etebo interrompt sa préparation pour signer avec Stock.
Le milieu nigérien qui s'apprête à disputer le Mondial 2018, après avoir fini la saison avec Las Palmas, a interrompu sa préparation pour signer un contrat de 5 ans avec Stock. Le joueur de 22 ans, international à 14 reprises, a cédé au club anglais pour 7,2 millions d'euros. En Russie, il affrontera avec les Super Eagles, l'Argentine, la Croatie puis l'Islande dans le groupe D.
Patrick Vieira, lui, est le nouvel entraîneur de Nice.
L'ex-milieu de terrain de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000 avec les Bleus, va succéder à Lucien Favre au poste d'entraîneur de l'OGC Nice. Jusqu'ici entraîneur du New York City FC en MLS, Vieira, 41 ans, a paraffé un contrat de 3 ans. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les maillots de l'AC Milan, d'Arsenal, de la Juventus Turin, de l'Inter Milan avant de prendre sa retraite en 2011 à Manchester City. L'ancien capitaine des Bleus, 107 sélections, a débuté sa carrière d'entraîneur à la tête des jeunes de Manchester City, les moins de 19 ans, puis les moins de 21 ans, avant de s'engager à New York.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la CPI continue de provoquer de nombreuses réactions. La justice internationale est une justice complémentaire, fait noter l'association ivoirienne d'éducation à la citoyenneté à l'issue de cet acquittement. Est-ce un signe de réconfort pour les autres détenus de la CPI, notamment l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ? Irénée Herman Umbo a recueilli la réaction du docteur Christophe Kouamé du Forum civique de la Côte d'Ivoire.
Pour nous, organisation de la société civile ivoirienne, sachant que nous avons l'ancien président Gbagbo à la CPI, cet acquittement nous conforte dans le fait que la CPI est une organisation qui va juger réellement selon les droits du prévenu. Et toutes les ONG de droits de l'homme de la société civile ivoirienne ont toujours souhaité que toutes les personnes incriminées dans la crise post-électorale puissent passer devant la justice nationale ou alors devant la CPI. Et il y a quelque temps, tous les pays d'Afrique voulaient sortir de la CPI. Nous faisons partie des organisations de la société civile qui avons dit non, acceptant que la CPI juge. Donc nous, on n'est pas surpris que M. Bemba soit acquitté, ne sachant pas forcément l'issue du procès.
Il y avait eu des éléments de preuve qui ont favorisé sa condamnation il y a quelques années à 18 ans de prison. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé du coup ?
Non, mais les éléments de preuve dont vous parlez, quand le procureur instruit un dossier, effectivement, on arrête la personne parce qu'il y a des éléments de preuve. Maintenant, c'est à l'accusation de donner la preuve directe, c'est-à-dire de convaincre le juge et les jurés pour qu'on puisse condamner. Donc c'est là que les preuves n'ont pas été suffisantes et que les avocats de Jean-Pierre Bemba ont réussi à le faire sortir. Voilà ce que nous on peut dire sans avoir lu tout le dossier qui a basculé en sa faveur. Nous l'attendons incessamment.
Alors pensez-vous dans ce cas que le président Gbagbo pourrait se retrouver dans une position aussi confortable comme celle de Bemba très prochainement ?
Sans connaître l'issue du procès, nous pensons que le procès, parce que nous avons une ONG nommée OIDH qui le suit au jour le jour, et donc nous avons l'information au jour le jour de ce procès, sans connaître l'issue, nous pensons qu'il a des chances, comme tout prévenu, de sortir libre de ce procès-là. Pour nous, que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit les juridictions nationales africaines, tout justiciable a la présomption d'innocence. Et deuxièmement, toute juridiction a pour obligation de donner la preuve que le prévenu est fautif. Voilà un peu les principes généraux qui régissent tous les tribunaux du monde. Maintenant, quand tu as parlé de crédibilité, je ne rentre pas dans l'émotion des présidents africains qui se battent pour être dans l'impunité globale en voulant sortir de la CPI.
Christophe Kouamé du Forum civique de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Conférence très attendue demain au Burkina Faso sur la rémunération des agents publics. L'objectif, selon le Premier ministre Paul Kaba-Tiéba, est d'aboutir à une maîtrise de la masse salariale à travers une refondation de notre contrat social avec les travailleurs. Ce sont ces termes. Bagassi Koura, joint à Ouagadougou, Élie Kaboré, journaliste économique.
Depuis que le président Kaboré est au pouvoir, le pays a enregistré plusieurs types de grèves sectorielles, des grèves qu'on ne voyait pas au Burkina. Et entre 2016 et 2017, il y a eu près de 68 grèves, jours de grève enregistrés. Et cela a beaucoup impacté sur la mobilisation des recettes. Donc, dans son message de nouvel an, le président a dit qu'il faut mettre fin au règlement des problèmes des travailleurs au cas par cas. C'est vraiment son terme qu'il a employé. Et désormais, il voudrait que la résolution des problèmes de travail se fasse d'une manière globale et durable. Donc, ce qui a amené un peu la convocation de cette conférence, en début février, ils ont remis une étude diagnostique qu'ils ont eu à faire à toutes les parties présentes qui ont accepté de participer à cette conférence, qui ont eu à faire des propositions. Donc, la conférence qui s'ouvre demain, c'est de vraiment faire la synthèse des propositions et maintenant définir une solution durable pour toute la fonction publique au Burkina.
Est-ce qu'on va remettre en cause les acquis des travailleurs?
Quand on écoute un peu les experts, un acquis, c'est au niveau du salaire. Alors que les différentes propositions, puisque nous avons eu accès au niveau des documents, les différentes propositions tendent à revoir à la hausse le salaire de base de tous les fonctionnaires. Maintenant, la crainte au niveau de certains corps de métier, comme les finances, la douane, les impôts, c'est qu'ils ont des avantages qui sont, on peut appeler des motivations. On prélève un certain taux sur les recouvrements qui ont été faits pour payer des motivations au niveau des financiers. Et surtout qu'aujourd'hui, le débat national, c'est que cette motivation dépasse de loin le salaire. Donc la tendance est de revoir à la hausse des salaires, mais tout en réduisant un peu ces avantages-là.
Alors, il y a certains syndicats qui disent qu'ils ne vont pas participer à la conférence de demain. Quels sont leurs arguments?
Le principal argument que ces syndicats avancent est que la conférence devait se passer entre le gouvernement et les travailleurs. Cette conférence devait plutôt discuter de la répartition des richesses nationales. Mais quand vous lisez un peu les propositions que les uns et les autres ont eu à faire, il ne s'agit pas d'aller discuter seulement des questions de rémunération salariale, mais c'est vraiment les aspects abordés par cette partie des syndicats qui refusent d'y aller. C'est-à-dire comment gérer toute cette richesse naturelle, les ressources naturelles, et les ressources minières, les ressources forestières, etc. etc. Donc, certains ont même proposé que l'on inclut dans le système de numération qui sera discuté les salaires et les avantages du président du FASO, du premier ministre, des membres de son gouvernement, le président des institutions, des ambassades, etc. etc.
C'était Elie Kaboré, journaliste au journal L'Économiste à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
À Singapour, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les ultimes préparatifs de leur sommet demain, mardi le 12 juin. Pourquoi cette rencontre très attendue et qualifiée d'historique? Idriss Fall, adjoint à Paris, Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et spécialiste des deux Corées.
Elle est historique parce que, au fond, symboliquement, elle va pouvoir mettre fin à la guerre de Corée. Et donc, à un moment très particulier de l'histoire de la péninsule coréenne, elle va pouvoir modifier, je dirais, l'ordre sécuritaire qui a découlé de cette guerre de Corée, avec une présence militaire américaine très forte, des relations de sécurité très fortes entre les États-Unis et la Corée du Sud, et donc va permettre de revoir le positionnement stratégique des uns et des autres.
Mais est-ce qu'on s'attend à des percées?
Un traité de paix sera très facile à atteindre, à négocier, à signer tout de suite, puisqu'au fond, la péninsule est restée depuis près de 70 ans sous un régime d'armistice qui était quand même assez anormal. En revanche, on parle beaucoup de la dénucléarisation, qui est quand même une étape extrêmement importante de la rencontre. Mais cette dénucléarisation, elle sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il faut être réaliste. Elle ne peut pas intervenir demain et faire l'objet d'un accord entre Trump et Kim Jong-un. Et le président américain en a convenu lui-même en disant récemment que c'est un processus qui sera long. Et on imagine qu'il va y avoir un communiqué où on parlera effectivement de la bonne volonté des uns et des autres concernant la dénucléarisation, mais que le processus sera mis en œuvre par des équipes techniques qui vont intervenir et discuter après la rencontre au sommet des deux dirigeants.
Justement, que signifie dénucléarisation? Qu'est-ce que ça signifie?
Le problème, c'est qu'on a bien le sentiment que dans l'esprit américain et dans l'esprit nord-coréen, ça n'est pas la même chose. Puisque depuis le début, on a entendu parler et revenir à un concept qu'on connaissait déjà, qui est la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Le sigle CVID en anglais. Pour la Corée du Nord, la dénucléarisation n'intéresse pas uniquement le programme nucléaire nord-coréen et sa relation avec les États-Unis, mais doit être compris comme un problème régional. Parce que dans toutes ces déclarations, finalement, Kim Jong-un parle de dénucléariser la péninsule et a bien dit à plusieurs reprises qu'effectivement, il ne voyait pas l'utilité de conserver un programme nucléaire si des garanties de sécurité suffisantes lui étaient accordées. Donc on voit bien que de part et d'autre, on a une vision très claire de ce que doit être la dénucléarisation et ce n'est pas une vision qui est convergente.
Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire en France et spécialiste des deux Corées. Toujours dans le dossier nord-coréen, à la veille du sommet Donald Trump-Kim Jong-un, quel a été le rôle de la Chine ? Timothée Donong-mai a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
On peut penser que la Chine veut que la Corée du Nord continue à agacer les États-Unis. Ça joue dans leur perspective d'avoir quelqu'un qui peut agir contre les États-Unis. Mais, par contre, il est aussi vrai que la Corée du Nord et la possibilité d'une guerre ou de problèmes entre la Corée du Nord et les États-Unis est un problème pour la Chine. Il veut que ce problème soit résolu dans une certaine façon. Donc, c'est ce que je vois, c'est une espèce d'ambiguïté. Il joue deux côtés de ce problème en ce qui concerne la Corée du Nord.
Et la Corée du Nord elle-même voudrait également afficher une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine.
C'est vrai, mais ils ont aussi rencontré les Russes. Donc, ils essaient d'avoir le soutien des Russes et des Chines contre les pressions des États-Unis. C'est un aspect du problème et ils dépendent, ça c'est sûr, sur la Chine. Donc, pour la Corée du Nord, je pense qu'ils jouent un peu entre les deux côtés. Ils ont réuni récemment avec à la fois la Chine et les Russes. Et maintenant, ils jouent avec les États-Unis. Je crois qu'ils jouent une espèce de jeu des deux côtés pour voir ce qui va arriver.
Mais jusqu'où ce jeu peut-il aller?
Alors ça c'est difficile aussi de déterminer la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il veut même voir? Parce que on peut dire pour le leader de la Corée du Nord, la chose la plus importante, c'est de maintenir ce qu'ils ont déjà arrivé à avoir, c'est-à-dire la nucléarisation de la Corée du Nord. C'est un moyen de dire que nous avons quelque chose qui est important. Ils ont essayé pendant 20 années d'avoir cet armement. Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'ils vont dire finalement nous ne le voulions pas? Alors ça, c'est difficile à voir, sauf que les problèmes de la Corée du Nord est tellement difficile. Le nombre de personnes qui n'ont pas de nourriture, le nombre qui sont en prison. L'avenir de ce pays dans cet état est difficile à figurer, vraiment. Donc, c'est deux côtés. Le gouvernement maintient son pouvoir avec les armes nucléaires, mais à la fois, ça pose des problèmes long terme pour le régime de Corée du Nord.
James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Wojtech Jorniak, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.